22 maires ont été élus ou réélus ce vendredi sur le territoire. Cynthia Jean à Dumbéa, Nina Julier au Mont-d'Or ou encore Antoine Romain à Païta. On fait le point dès le début de ce journal. Le bilan des élections municipales et l'avenir de la réforme constitutionnelle. Sonia Baquès était l'invitée du magazine Transparent ce midi. Aircal prépare un plan de redressement. La compagnie aérienne a pris la décision ce matin en conseil d'administration d'entamer une procédure collective auprès du tribunal de commerce. À vos stylos, la dictée du Pacifique, c'est demain. Elle se tiendra dès 13h30 dans la salle d'honneur de la mairie de Nouméa. Et puis le sport avec du football, pas d'exploit cet après-midi pour la sélection de Nouvelle-Calédonie. Les Cagous se sont inclinés 1-0 contre la Jamaïque. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce journal. La mise en place des exécutifs municipaux à la une, bien évidemment ce soir. Ce sont 22 communes qui ont élu aujourd'hui leur maire et ses adjoints. Les trois dernières communes le feront ce week-end et c'est en effet le délai pour réunir les conseils municipaux sortis des urnes dimanche dernier après le second tour des élections municipales. Les trois communes de l'agglomération ont réuni leur conseil ce matin et à Dumbéa, sans surprise, le nouveau maire est Cynthia Jean, Charlotte Coulson.
Après avoir remporté les élections dimanche dernier avec 45,33% des suffrages, Cynthia Jean, la tête de liste Unir pour l'avenir, était la seule candidate au poste de maire. C'est donc sans surprise qu'elle a été élue. Elle a recueilli 31 voix sur 39, les 8 autres étant des votes blancs. Les élus ont ensuite procédé à l'élection des adjoints au maire au nombre de 9. Le premier est donc Loïc Basset-Crenier, le deuxième Xavier Rossard. Beaucoup de satisfaction ce matin pour celle qui siégeait dans l'opposition depuis 2020 comme élue Génération Dumbéa. Avant de former l'Union des loyalistes Rassemblement Dumbéa en 2025, Cynthia Jean entend se mettre au travail rapidement.
Nous pouvons dire que la séance s'est extrêmement bien passée. Nous avons pu observer des mots très constructifs de la part de l'opposition. J'espère que cela va durer toute la mandature. Nous avons élu les adjoints également. Nous avons choisi de diminuer le nombre d'adjoints par rapport à ce qui est possible, passant ainsi de 11 à 9. Nous avons voulu montrer un signe de maîtrise des dépenses publiques. Et nous sommes maintenant prêt pour travailler. Je suis en réunion de travail dès cet après-midi avec le secrétariat général. Nous commençons à nous mettre au travail immédiatement. C'est pour ça que les Dumbéens nous ont élus.
Cynthia Jean siège désormais à la tête d'un conseil municipal complètement recomposé. Johan Lecourieux, le maire sortant, a récolté 19,85% des suffrages au second tour des municipales. Il a donc obtenu 4 sièges au sein du conseil. Nous adopterons une attitude digne, respectueuse et responsable, une opposition constructive mais aussi exigeante, a-t-il dit lors du conseil après avoir félicité la nouvelle équipe.
De les féliciter et que maintenant leur position et leur majorité à l'exécutif les obligent envers les Dumbéens et les Dumbéennes à mettre en œuvre leur programme et ce qui a été dit pendant la campagne municipale. On l'a indiqué, nous avons à l'image de notre attitude lors de cette campagne d'être très constructif, positif et surtout dans la défense des intérêts des Dumbéens. Donc c'est l'objectif de notre position.
L'opposition, composée également des listes de Rachel Ocher, de Muriel Malfar-Paoga et de Vaimoua Mouliava, a aussi félicité la nouvelle maire en soulignant qu'elle devient la première femme à occuper ce poste à Dumbéa. Le prochain conseil aura lieu le 16 avril.
Au Mont-d'Or, maintenant, c'est Nina Julier qui a pris ses fonctions officiellement ce matin. Elle a été élue parmi les 3 candidatures présentées lors du conseil municipal, Jean-François Baudin.
Oui, le suspense était limité puisque les votes ont confirmé la logique des urnes dimanche dernier. Nina Julier a obtenu les 26 voix de sa liste et a été élue maire. Elisabeth Rivière a obtenu 6 voix et les 3 voix indépendantistes se sont tournées vers la candidature de Tania Waka. Après avoir salué ses concurrents et ses colistiers, Nina Julier a été installée dans le fauteuil de maire. Les 10 adjoints issus de sa liste ont été élus avec 27 cette fois, c'est-à-dire une de plus que le nombre de conseillers de la majorité. 8 bulletins sont revenus blancs. Nina Julier, le nouveau maire du Mont-d'Or, en a profité pour rappeler ses 3 priorités, la sécurité, l'attractivité économique et le rayonnement de la commune.
C'est toujours un moment émouvant après autant d'années dans l'opposition. Cette campagne a été longue, belle campagne, mais longue campagne. Donc oui, c'est toujours un aboutissement. Et c'est surtout un moment pour annoncer comment nous allons travailler. Au travers de notre élection, les Mont-d'Oriens ont choisi le changement. Donc on va faire des choses très concrètes, très visibles et très utiles, surtout pendant ces 3 premiers mois, ce qui nous laissera le temps de réfléchir à la feuille de route des 6 ans qui sera basée sur notre programme, mais également sur la concertation avec les services. Moi, j'ai proposé une méthode basée sur le respect, mais le vrai respect, celui des règles, celui des autres, et sur les sanctions quand les règles ne sont pas respectées. Et les Mondoriens ont choisi cette méthode. Mais la volonté est la même pour tous les conseillers municipaux, vivre ensemble et en paix. Nous, on est ouverts à partir du moment où le respect règne, à partir du moment où le choix démocratique des Mondoriens est respecté. Nous sommes prêts à travailler avec, bien entendu, tout le monde.
La maire sortante de son côté, Elisabeth Rivière, a affirmé qu'elle siégerait désormais dans une opposition constructive.
Je tiens déjà à les féliciter parce que la tâche est immense. C'est les électeurs du Mont d'Or qui ont choisi. Donc nous nous plions bien sûr à leur choix, mais nous ferons partie bien sûr de l'opposition. Mais l'idée n'est pas d'être une opposition pour être vraiment dans l'opposition, mais une opposition constructive parce que les Mondoriens qui ont porté leur voix sur notre liste, eh ben, attendent que l'on travaille pour eux aussi et qu'on leur porte leur voix. Et nous continuerons à porter les projets que depuis 10 mois, j'ai portés, et une grande satisfaction parce que lundi, le haut-commissaire a annoncé que notre centre d'incendie et de secours était éligible au financement à 100% par l'État. Donc pour moi, c'est une vraie satisfaction d'avoir pu porter ce projet pendant ces 10 mois, et vous verrez que prochainement, il y aura d'autres projets qui verront le jour grâce au travail qu'on a effectué, pas pour nous, mais pour les Mondoriens.
C'est donc ce matin Nina Julier qui a été élue maire du Mont d'Or. Son premier adjoint sera Frédéric Parent.
Troisième commune de l'agglomération dont le maire a été élu aujourd'hui, Païta. Antoine Romain occupe donc désormais le fauteuil de maire. Sa liste est arrivée largement en tête au second tour des élections municipales et a obtenu 26 sièges sur les 35 du conseil municipal avec 43,17% des suffrages. Deux candidatures se sont déclarées pour le poste de maire aujourd'hui. Antoine Romain a obtenu 25 voix et été élu maire contre Nikita Alosio. 2 voix, 7 bulletins sont revenus blancs. Il s'agit de ceux de la liste de Milakoulo Tukumuli avec 6 sièges et de Patrick Grépeau. Précisons qu'un conseiller était absent cet après-midi. Écoutez Antoine Romain, le nouveau maire de Païta, qui succède donc à Marilyn D'Arcangelo qui ne se représentait pas.
Cette séance inaugurale du conseil municipal n'a pas réservé de surprise et j'en suis particulièrement satisfait. J'ai eu l'occasion de rappeler un petit peu quels étaient les fondamentaux de la campagne et puis dans quel état d'esprit je souhaitais débuter ce mandat municipal, en saluant évidemment la présence alors de ce qu'on appelle ou de ce qu'on appellera l'opposition, mais avec le souhait effectivement de pouvoir associer ces élus au travail de la commune et puis plus généralement à l'élaboration des projets qu'on aura à conduire au cours des 6 ou 7 ans du mandat qui débute aujourd'hui. Les priorités pour ce début de mandat, c'est celles qu'on a défendues évidemment au cours de la campagne électorale, c'est-à-dire l'amélioration et le renforcement de la présence en termes de sécurité sur la commune. Je pense notamment à notre police municipale, mais je pense aussi aux équipements qui sont liés à l'exercice de cette compétence. Et puis, comme j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, je souhaite vraiment pouvoir lancer dans un délai très rapide les projets de construction de cette maison des associations qui fait vraiment aujourd'hui cruellement défaut à la commune de Païta.
Et à Païta, 10 adjoints au maire ont été élus. La première adjointe est Vaïsioa Lajikoula. Pas de surprise non plus dans les autres communes de la province sud. Patrick Roblin a été réélu maire de Bouraille. Steven Skaouda est le nouveau maire de La Foy où il succède à Florence Roland. À Thio, Teva Puyoa occupe désormais le fauteuil de maire et débute son premier mandat. Régis Vendégou est le nouveau maire de l'île des Pins. Il a été élu avec 15 voix contre 4 pour Patrick Couté. Plusieurs communes de la province Nord ont aussi élu leur maire aujourd'hui, notamment à Koné, chef-lieu du Nord, où Mike Samadi va donc succéder à Thierry Gowessé, qui s'était représenté avec une liste UC-FLNKS, Jean-François Baudin.
Oui, et le nouveau maire est issu de la liste Agissons pour Koné, qui avait récolté 21 voix sur les 29 élus qui composent le conseil municipal. Il y a également eu 8 votes blancs. Mike Samadi a construit sa campagne municipale en insistant sur le côté apolitique de sa liste et souhaite désormais effectuer un travail de terrain pour améliorer le cadre de vie des habitants de Koné. Pour autant, il ne ferme pas la porte à une collaboration avec l'opposition.
Les électeurs ont suivi leur voix, n'ont pas écouté, été déroutés par le deuxième tour. Et tout s'est bien passé. Aujourd'hui, on est en place pour pouvoir proposer quelque chose pour Koné. On va déjà faire un état des lieux de la situation, une audite, faire le tour aussi des bâtiments, de tout. Donc vraiment un bilan dans les premiers mois. Et bien sûr qu'on ouvrira la discussion et sans doute dans des commissions, on se retrouvera pour pouvoir proposer des postes aux partis qui vont travailler avec nous. On est quand même sur une liste d'ouverture, on est quand même sur des discussions, on est quand même voisins, on est quand même tous plus ou moins famille hein, aujourd'hui dans cette commune. Je pense qu'aujourd'hui, fermer la porte à la discussion, c'est ne pas... ce n'est pas dans notre philosophie. Hein. On est 29 élus, on doit ouvrir nos oreilles et positionner pour l'intérêt de Koné.
Cette élection marque un tournant dans la vie politique de Koné, jusqu'ici toujours dirigée par un maire indépendantiste. Joseph Goromido, l'ancien maire de la commune entre 2014 et 2020 et candidat uni, a tenu à féliciter Mike Samadi pour son élection et il souhaite voir Koné connaître un second souffle.
Ça fait quand même un choc pour la population indépendantiste de perdre la mairie. Mais de toute manière, on est en démocratie et donc si les citoyens décident de voter pour quelqu'un d'apolitique ou de non-indépendantiste, c'est le droit de chacun de voter en ton âme et conscience. Surtout, j'espère qu'il fera du bon travail dans les 6 ans à venir parce que la commune est dans un état lamentable aujourd'hui avec tous les événements qui se sont passés. Et donc on a besoin de donner confiance aux citoyens, de redresser les choses, les routes, les écoles, et le chef-lieu de la province Nord, qu'en est-il? Donc bonne chance au nouveau maire pour réussir dans ce défi.
La liste du nouveau maire de Koné, Mike Samadi, détient 20 sièges dans le nouveau conseil municipal. Les listes UCFL-NKS de Thierry Gouessé et UNI de Joseph Goromido, 4 sièges chacune. Et ensemble, construisons la commune de demain de Jean-Yves Mie, obtient un siège.
Dans les autres communes de la province Nord, Pascal Savoie a retrouvé son siège de maire de Wailou. Sans surprise non plus, Paul Néaoutine a été réélu maire de Pointe-d'Imier pour un 7e mandat consécutif. En revanche, un nouveau maire à Canala, Caril Béronon, a en effet été élu ce matin. Il succède à Gilbert Thuyénon.
C'est une grande satisfaction par rapport à tout le travail qu'on a porté sur le terrain. C'est le peuple qui a parlé à travers les urnes. Donc nous, on a dit pendant notre tournée, nous on revient sur les fondements, l'eau, l'électricité, les routes. Pourquoi ? Parce que quand on a fait nos 15 tribus, ce qui était sorti des attentes des gens. Il faut dire qu'en 2026, on a des tribus, ils n'ont même pas l'eau chez eux. On parle des personnes qui n'ont pas d'eau chez eux. Et nous, on veut remédier à ça.
Caril Béronon, le nouveau maire de Canala. Autre nouveau maire élu ce matin, Yann Gastaldi, devenu maire de Koumac.
Très heureux d'être aujourd'hui le maire de la commune. Donc avec beaucoup d'engagement et de joie de pouvoir... réaliser l'ensemble des projets que nous avions prévus lors de notre campagne. Nos priorités pour ce mandat, déjà, et là on est déjà en train d'y travailler, c'est la prise en main de l'ensemble du fonctionnement de la mairie. Hein. L'objectif n'est pas de réinventer la poudre, mais bien de marcher sur une continuité. Et ensuite, on lancera les projets qui faisaient partie de notre campagne. C'était beaucoup s'axer sur la réhabilitation de l'ensemble de nos structures, de nos bâtiments, et également développer certains projets dans les périphérie du village, ce qui était tribu et lieu dit.
Yann Gastaldi, le nouveau maire de Koumac, toujours en province Nord. Alain Levent reste le maire de Calagomène. Océa Naoutchoué est le nouveau maire de Ponérioin. Franck Diopoué, celui de Kouaoua. Joseph Méan Dupauveux retrouve le siège de maire de Poya. Et à Ouégoua, Barnabé Pébouamen, élu cet après-midi, va entamer son 2e mandat consécutif. Et on attend le résultat du vote à Pointe-Bout, où Yann Peraldi devrait se retrouver son siège. Et à Poum, où Marc Tidjin devrait succéder à Henriette Mahé. Les deux conseils sont toujours en cours. Dans les îles, à présent, le nouveau conseil municipal de Marais sera désormais dirigé par Robert Chawidron, élu ce matin pour succéder à Marilyn Sinewami. Et à Ouvéa, Maurice Tilewa conserve aussi son siège de maire et entame son 3e mandat. 22 maires ont donc été élus dès aujourd'hui. Il restera 3 maires à élire. Le conseil municipal de Pueblo se tiendra demain, samedi à 9h. Celui de Bouloupari à 10h. À Nouméa, enfin, c'est dimanche à 16h. Aura lieu l'installation du nouveau conseil municipal. 18h, tout pile sur Radio Rythme Bleu. Première pause dans ce journal. Le reste de l'actualité dans quelques instants.
Toute l'info en 3 lettres, RRB. Le rappel des airbags Takata concerne une grande majorité des constructeurs automobiles à l'échelle mondiale. Vous êtes propriétaire d'un véhicule Subaru, ce message vous concerne. En effet, le groupe automobile CPH informe ses clients qu'une campagne de rappel concernant des airbags de la marque Takata est toujours en cours. Si vous êtes propriétaire d'un véhicule Subaru mis en circulation entre 2004 et 2014, modèle Impreza, Forester, Legacy Outback ou Tribeca, votre véhicule est peut-être concerné. Réalisé exclusivement au village automobile au PK4 à Nouméa, le remplacement des airbags Takata défectueux est entièrement gratuit, avec le prêt d'un véhicule relais offert. Comment vérifier si votre véhicule fait partie du rappel? Le groupe CPH a créé un site spécial pour cela. Rendez-vous sur cph-campagne-de-rappel-takata.nc et saisissez votre numéro de châssis pour obtenir une réponse immédiate. Tapez cph-campagne-de-rappel-takata.nc. Si vous êtes concerné, prenez rendez-vous aussitôt via le site ou contactez notre atelier agréé par téléphone au 41 44 66 ou par email à rvairbags@cph.nc. Groupe CPH, toujours à vos côtés pour votre sécurité.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Info soir, Léo Fichou.
Le bilan de ces élections municipales, mais aussi l'avenir de la réforme constitutionnelle au menu du magazine Transparence. C'est Sonia Baquès qui était ce midi l'invitée d'Elisabeth Noir, Jean-François.
Et l'un des constats à l'issue des deux tours de scrutin, c'est le succès des listes soutenues par les loyalistes, avec un carton plein dans les communes de l'agglomération, à Nouméa, mais aussi à Dumbéa, au Mont-d'Or et Païta. La présidente de la province sud et chef de file des loyalistes y voit une volonté d'apaisement.
Je pense qu'il y avait vraiment un message post-émeute, puisqu'en fait c'est la première élection réellement post-émeute, il y avait eu les législatives pendant les émeutes, de dire on veut un message clair, on veut envoyer un message pour dire qu'on ne veut pas de la violence d'une part, et d'autre part qu'on la condamne, et on apporte et on mettra en œuvre plus de sécurité pour les Calédoniens. Donc je pense qu'il y a ce message-là. Il y avait évidemment un message également sur Bougival, puisque alors c'était pas forcément notre volonté d'en faire un référendum pour ou contre Bougival, mais ça a été annoncé par le FLNKS de dire que ce sera un référendum pour ou contre Bougival.
Sonia Baquès estime que c'est la clarté et l'union des listes loyalistes qui ont fait le succès de leurs candidats, mais elle se défend de toute radicalité.
Aucun de nos candidats n'a tenu de discours dur. Alors je comprends la difficulté de ceux qui perdent et d'essayer d'expliquer ce qui s'est passé, mais je crois simplement qu'il y a eu un message de clarté. On a été limpide d'une part dans nos prises de position pour condamner la violence, pour proposer des choses pour apporter de la paix et de la sécurité aux Calédoniens. Et ensuite, il y a aussi une valorisation de l'union dans le camp non-indépendantiste. C'est-à-dire que concrètement, tous ceux qui ont été en dehors de l'union ont été sanctionnés. Je crois que la situation en Nouvelle-Calédonie est sur le plan économique et sur le plan sociétal et sur le plan électoral nous impose d'être unis. Et je pense que tous ceux qui n'ont pas fait cet effort d'union, finalement, ont été sanctionnés.
Et du résultat des municipales, Sonia Baquès retient une nécessité d'union pour les élections provinciales, quelles qu'aient pu être les concurrences dans les élections municipales. Et même si ce scrutin n'était pas un référendum pour ou contre Bougival, elle affirme que les chiffres parlent d'eux-mêmes et que les partisans de Bougival sont largement majoritaires au sortir de ces élections. Et elle en tire également des conséquences dans le camp indépendantiste.
L'écart entre l'UNI et l'UC se restreint à l'avantage de l'UNI, c'est-à-dire que l'UNI rattrape l'écart de voix qu'il y a entre l'UC et l'UNI, se réduit au bénéfice de l'UNI. Et ça, je pense que c'est un message qui est important, parce que c'est aussi un message de dire que dans le camp indépendantiste, en tout cas c'est comme ça qu'on le reçoit, il n'y a pas de prime à la violence. Et on constate d'ailleurs qu'il y a pas mal de communes dans lesquelles Christian Théin est allé lui-même faire campagne, dans lesquelles finalement le résultat est le moins bon pour le FLNKS.
La chef de file des loyalistes rappelle aussi que les élections municipales ont été un scrutin très politique, et elle relève que les électeurs ont eu de la mémoire.
D'abord, on dit souvent les électeurs n'ont pas de mémoire. Ils ont eu de la mémoire. Ils se sont rappelés de ce qui s'est passé au sénatorial. Ils se sont rappelés de qui a trahi le camp loyaliste, qui a permis d'avoir l'élection de Robert Rowy, qui est quand même le plus radical. On l'a vu pendant les négociations de Bougival, le plus radical d'entre tous, et pourtant on n'avait pas que des tendres. Qu'ils l'ont fait élire, et les électeurs n'ont pas oublié. Les électeurs n'ont pas oublié les gens qui ont été absents pendant les émeutes. Ils n'ont pas oublié les gens qui ont voté l'indépendance association proposée par Manuel Valls. Je pense que c'est important de retenir ça, parce qu'il y en a qui ont cru qu'on pouvait faire des choses et puis qu'on allait oublier, on allait effacer tout ça et aller aux élections en étant vierge de tout ce qu'on avait fait avant. Bah non, ça n'existe pas.
Sonia Backès a aussi été interrogée sur le projet de loi constitutionnelle qui vient d'être rejeté par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Elle affirme que même si c'est mal engagé, ce n'est pas plié.
Non, c'est pas plié parce que la commission ne rend qu'un avis, donc c'est indicatif. Mais objectivement, quand la commission donne un avis défavorable, c'est assez mal engagé pour la séance publique. Donc évidemment, on aurait préféré l'inverse. Mais les choses ne sont pas pliées parce qu'il y a en ce moment des discussions au plus haut niveau de l'État, le président de la République, le Premier ministre, qui ont pris le dossier avec les présidents de chambre, avec les chefs de groupe des différents mouvements politiques nationaux, pour essayer de voir comment on en sort. Il y a plusieurs options, évidemment. Il y a le fait qu'on arrive à convaincre une majorité à l'Assemblée de finalement voter pour ce texte et du coup, il irait au congrès de Versailles et finirait son chemin. Encore une fois, c'est assez mal engagé, donc on ne va pas considérer que c'est la solution la plus probable. Et si effectivement ce texte est rejeté en séance publique, là aussi, il y a encore plusieurs options. Il y a l'option de dire « Ok, le texte est rejeté tel quel, mais on doit poser la question aux Calédoniens. » Et donc on en revient à une option qui avait été envisagée un temps, puis mise de côté parce que les socialistes ne la souhaitaient pas, qui est de consulter les Calédoniens. Est-ce qu'on peut obtenir une adhésion du Rassemblement National, par exemple, sur la consultation des Calédoniens.
Et il existe deux autres options qui prennent en compte directement la modification du corps électoral.
Ensuite, il y a la volonté claire du Premier ministre et du Président de la République de dire on ne peut pas aller aux élections avec un corps électoral gelé. D'une part parce que d'un point de vue démocratique, c'est insupportable, mais d'autre part parce que c'est la victoire de la violence. C'est-à-dire que ceux qui ont tout cassé le 13 mai dernier pour obtenir le non-dégel du corps électoral, en allant aux élections avec un corps électoral gelé, c'est leur dire bah, en fait, vous avez eu raison de faire ce que vous avez fait. Donc ça, c'est parfaitement inacceptable. Et je pense que le Président de la République en est conscient. Donc il y a une option dans laquelle il remet sur la table directement à Versailles le texte qui a été accepté à l'Assemblée nationale et au Sénat et qui a fait l'objet des actions du 13 mai. Donc il a la possibilité de dire...
Qui a été suspendu en
qui a été
juin
simplement
2024.
Suspendu, donc il pourrait être redéposé à Versailles. Et puis il y a des options intermédiaires où on se met d'accord sur un corps électoral partiellement ouvert. Moi, je suis totalement opposée à ce qu'on inscrive que les natifs parce qu'il y a des gens qui sont là depuis très longtemps et qui méritent aujourd'hui de voter. Et puis il y a l'option où il ne se passe rien et où on doit aller aux élections avec un corps électoral gelé, ce qui pour nous est totalement inacceptable.
Sonia Backès qui a évoqué aussi dans cette émission la situation économique et la reprise de PRNC. Une interview à retrouver en audio et vidéo sur notre site internet. Elle sera aussi rediffusée dans son intégralité dimanche soir après notre édition de 17h45.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. On démarre avec notre question du jour. Le rejet par la commission des lois de l'Assemblée nationale du projet de loi constitutionnelle sur la Nouvelle-Calédonie vous inquiète-t-il pour la suite du processus de Bougival ? Si cela vous inquiète, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à la question d'hier, à présent 65% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que le pacte de refondation est à la hauteur des besoins de reconstruction de la Nouvelle-Calédonie. Ils sont 35% à être d'un avis contraire. Aircal va entamer une procédure collective auprès du tribunal de commerce pour préparer un plan de redressement. La décision a été prise ce matin lors d'un conseil d'administration de la compagnie, Jean-François.
Déjà en difficulté ces dernières années, Aircal a mené d'importantes démarches de réduction de ses coûts qui a notamment abouti à un plan social de grande ampleur. Mais le blocage des aérodromes des îles Loyauté et de l'île des Pins, qui dure depuis près de 4 semaines, est venu brutalement aggraver une situation déjà fragile et met en danger immédiat les finances de la compagnie. C'est la raison pour laquelle les administrateurs ont décidé ce matin d'entamer une procédure collective auprès du tribunal de commerce. Cela va permettre dans un premier temps à la compagnie de geler ses dettes et sous réserve de la réouverture des aérodromes bloqués, de poursuivre son activité en fonction des ressources qui seront allouées par les actionnaires durant la période d'observation. Cette période d'observation va aussi permettre de proposer un plan de redressement. La décision a été annoncée au personnel de la compagnie. Ce dernier, souligne Aircal dans un communiqué, a déjà été très sollicité ces dernières années pour réduire les coûts et va devoir sans doute faire des efforts supplémentaires avec notamment la poursuite du chômage partiel tant que l'activité n'a pas repris. C'est une situation très difficile qui impacte près de 200 familles, conclut Aircal dans ce communiqué.
Dans les airs, toujours le corridor sanitaire se poursuit. Dans la continuité des opérations menées pour Ouvéa et Lifou, une rotation a été effectuée ce mercredi à l'île des Pins. Et aujourd'hui, du côté de Marais, l'avion mis à disposition par Air Calédonie a permis d'acheminer 43 patients, dont certains accompagnants, 4 personnels de santé et 2 caisses d'analyse biologique de 40 kg de Marais vers Tontouta. Pour rappel, mercredi, 19 personnes, 13 patients et 6 accompagnants ont quitté l'île des Pins pour rejoindre la Grande Terre. À leur arrivée à la Tontouta, certains patients ont été pris en charge directement par des ambulances, les autres récupérés par leur famille ou transportés par navette. Et puis, il y a des perturbations sur les vols internationaux. Le vol SB501 du 25 mars entre Paris et Nouméa via Bangkok avait été annulé à cause, je le rappelle, d'une panne technique qui n'est toujours pas résolue. L'avion est encore cloué au sol à Paris à cause d'une pénurie mondiale de certaines pièces qui équipent les appareils Airbus A330. Heureusement, la direction technique d'Air Calais a des pièces de rechange à Tontouta. Elles sont acheminées vers Paris. En attendant la réparation, les passagers sont pris en charge. Mais en conséquence, les vols SB600 et SB601 entre Nouméa et Papeete, prévus aujourd'hui, ont été annulés. Ils sont reprogrammés demain avec un départ de Nouméa prévu à 13h30. Une nouvelle séance de travail dans l'hémicycle du Congrès, boulevard Vauban. Pas d'élus présents ce matin, mais 24 personnes tirées au sort qui composent l'Assemblée citoyenne du Congrès. 24 Calédoniens qui vont travailler sur la thématique transparence de la décision publique et confiance envers les institutions. Velma Falayo, la présidente du Congrès de la Nouvelle-Calédonie.
On voit bien qu'il y a une grande défiance aujourd'hui et qu'il faut vraiment améliorer en fait le rapport des institutions, des élus avec les habitants. Et j'espère qu'à travers le travail qui sera fait aujourd'hui, de vraies propositions seront faites. Je me suis engagée en tout cas que ça ne reste pas qu'un simple avis. L'idée déjà, ce sera de rendre public ces travaux, d'expliquer pourquoi on a retenu telle chose et moins d'autres choses. Mais après, l'idée aussi, c'est de informer les élus sur le travail qui a été fait et ensuite travailler plus en profondeur avec les services juridiques notamment pour concrétiser ces propositions en texte législatif par exemple.
Les travaux de cette assemblée citoyenne qui a été officiellement installée ce matin se dérouleront sur plusieurs sessions, aujourd'hui et demain pour la première, les 24 et 25 avril pour la seconde. L'actualité judiciaire, Philippe Blaise ne sera pas jugé sur le fond du dossier qu'il a conduit devant le tribunal correctionnel. Le vice-président de la province sud avait qualifié la CCAT de nazi à peau noire, fin de citation. Le tribunal a estimé que la CCAT n'étant pas constituée en personne morale, les personnes qui s'en réclament n'ont pas été recevables pour porter plainte en son nom, ce qui signifie que leur plainte a été rejetée. Nous y reviendrons dans notre édition demain matin. Vigilance, si vous avez de la fièvre, des douleurs aux articulations, consultez votre médecin pour vous faire dépister de la dengue. Une épidémie circule actuellement sur le territoire. 80 cas ont été déclarés la semaine dernière. Le nombre de communes touchées continue d'augmenter. C'est une première depuis 2019, année du lancement du programme Wolbachia, qui a considérablement réduit le nombre de cas, surtout dans le Grand Nouméa, nous dit Florie Chéan, responsable du bureau santé environnement à la direction des affaires sanitaires et sociales.
Depuis 2019, plus d'épidémies sur le territoire. On a l'effet protecteur du World Mosquito Programme qu'on a déployé dans le Grand Nouméa. Les communes qui étaient le plus touchées auparavant par la dengue étaient ces communes-là. Donc elles sont vraiment protégées par ce programme puisque là la circulation reste faible dans ces communes. Mais les autres communes du territoire n'ont pas pu bénéficier de ce programme. Et donc, les moustiques sont toujours capables de transmettre la dengue. Et donc, dès qu'il y a quelques personnes qui reviennent de voyage avec le virus, dans ces communes-là, il peut y avoir une transmission beaucoup plus active que dans le Grand Nouméa. En fait, il y a beaucoup d'épidémies de dengue en dehors de la Nouvelle-Calédonie, donc dans la région Asie, dans la région Pacifique. C'est souvent des retours de voyage, des voyageurs qui ramènent le virus sur le territoire et puis ça se propage ici sur le caillou.
L'ADAS rappelle donc des gestes simples mais efficaces pour lutter contre la dengue, supprimer les eaux stagnantes autour de chez soi, se protéger bien évidemment des piqûres de moustiques et puis en cas de symptômes, consulter un médecin rapidement. Cette information en bref qui vient de nous parvenir, un incendie s'est déclenché aujourd'hui sur l'un des convoyeurs de l'usine du Sud de Prony Resources. L'origine est pour l'instant inconnue, mais la brigade d'intervention d'urgence a rapidement pris les choses en main pour éteindre l'incendie. Toutefois, le convoyeur concerné étant situé près du port, une partie du personnel n'a pas pu embarquer dans le ferry et a été ramené sur Nouméa en bus. 18h passées de 15 minutes, seconde pause dans ce journal, on parlera culture, sport et météo juste après.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegale@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite de votre journal avec Léo Fichou.
Voyons à présent comment les Calédoniens pourront se divertir ce week-end. Les fans de culture trouveront leur compte à Nouméa et à Païta, Charlotte Coulson.
La semaine de la langue française et de la francophonie se poursuit. L'Alliance Champlain propose sa traditionnelle dictée du Pacifique demain. Elle aura lieu à 13h30 dans la salle d'honneur de la mairie de Nouméa. Les précisions de Daniel Mirou, le président de l'Alliance Champlain.
C'est depuis 2003 qu'on est dans le circuit des dictées annuelles. Et si au tout début, on optait plutôt pour une dictée élitiste à la Bernard Pivot, c'est d'ailleurs lui-même qui avait concocté, qui avait préparé la première dictée que nous avions lancée. Mais au fil des années, donc, on s'est là aussi adapté au contexte local, à savoir de faire en sorte que la dictée soit ouverte à tous et à toutes, et surtout de permettre à tout un chacun de pouvoir essayer de se livrer à un exercice qui ne soit pas trop difficile, trop compliqué. Et donc, on avait pris la décision, et ça marche très bien, de choisir le texte de la dictée dans une œuvre locale, dans une œuvre d'un artiste ou d'une artiste locale, ou d'un auteur ou d'une autrice locale. Enfin, donc, c'est très, très variable, mais c'est toujours donc une dictée de Nouvelle-Calédonie.
Les inscriptions se font directement sur place. Et à Païta aussi, les férus de langue française pourront se challenger au doc socioculturel à partir de 14h.
Côté artistique, le musée maritime reçoit l'artiste Lise-Marie Arbulot pour une démonstration de la technique du pastel.
Un atelier proposé dans le cadre de son exposition Ineffable Lagon, qui met en valeur les couleurs du lagon calédonien. Découvrez la technique derrière l'art de 10h30 à 12h30 demain au musée maritime. Autre rencontre musicale cette fois, le récital de piano organisé par le Conservatoire des Arts de Nouvelle-Calédonie. Il accueillera dans son auditorium le pianiste Vincent Adrania dimanche à 18h. Les places sont en vente sur e-ticket.nc.
Et puis on va parler environnement. Ce week-end, le WWF fête les 20 ans de l'initiative Earth Hour dans les trois parcs de la province sud. Quand on parle environnement, on parle aussi de circulation douce. L'association Droit au Vélo NC organise un atelier de remise en selle pour les femmes demain de 8h30 à 11h30. Ce sera sur le parking du Centre culturel de Boulary. L'atelier est gratuit, mais il faut s'inscrire au préalable. Rendez-vous sur la page Facebook Droit au Vélo NC. On termine avec plusieurs salons organisés à Nouméa du côté de Coécara, le salon Éco, Habitat Déco, notamment de la Chambre des métiers de l'artisanat, Charlotte Coulson.
C'est le rendez-vous pour découvrir les dernières tendances et solutions en matière d'aménagement, de décoration et de rénovation. Plus de 100 professionnels sont présents sur place samedi de 9h à 17h30 et puis dimanche de 9h à 16h à Coécara. Et puis on termine avec cet événement pour les amoureux d'automobile. Depuis ce matin, le salon Toyota se tient à la Maison des Artisans à l'entrée de Nouville. Véhicules neufs et d'occasion sont à découvrir encore demain de 8h à 18h et dimanche de 8h30 à 16h.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Nouméa, c'est le 100.4.
On ouvre notre page sport avec ce qui aurait pu être un exploit historique, une victoire de la Nouvelle-Calédonie contre la Jamaïque. Malheureusement, les Cagous se sont inclinés sur le plus petit des scores, 1-0 cet après-midi contre les Reggae Boys. Et c'était dans le cadre des barrages intercontinentaux de la Coupe du Monde. Un match serré, disputé, qui aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre, mais qui n'a pas souri aux joueurs de Johan Zidaner. Angelo Fulgini, qui disputait son premier match pour la Nouvelle-Calédonie, parle d'un résultat frustrant.
C'est la frustration. Je pense que c'est de la frustration parce qu'on sentait qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Voilà, on était bien dans notre match, on a réussi à faire des belles combinaisons, on a eu des opportunités. Après, c'est sûr qu'ils en ont eu aussi, mais voilà, on a montré que les Calédoniens ils pouvaient être bons dans des matchs comme ça, à la renommée mondiale. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a pu faire plaisir à tout le monde. Malgré la défaite, on a montré un beau visage et voilà, en espérant qu'on garde cette image et qu'on progresse dans les années à venir. C'était magnifique, franchement. Remercier au peuple mexicain. On l'a vu déjà avec l'accueil à l'hôtel. Ils nous ont mis dans les bonnes conditions et voilà, on peut juste dire merci à eux et voilà, ils nous ont poussé jusqu'au bout. Malheureusement, ça l'a pas fait, mais en tout cas, on va continuer pour aller plus loin.
Et les Jamaïcains vainqueurs, donc 1-0 de la Nouvelle-Calédonie, affronteront la République démocratique du Congo pour une place au Mondial. En football, toujours, on signera la victoire en amical de l'équipe de France sur le Brésil ce matin sur le score de 2-1. Les joueurs de Didier Deschamps affronteront la Colombie, toujours en amical. Ce sera lundi à 6h. En métropole, pas de Ligue 1. Ce week-end, c'est la trêve internationale, vous l'avez compris. Mais il y a du rugby, la 20e journée du top 14. Les matchs se joueront dimanche et lundi matin pour nous. À suivre dimanche, le choc notamment entre Toulouse et Montpellier, le leader et son dauphin. Les sports mécaniques avec la Formule 1.
Vos stations Shell et Pacific, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Au chapitre sport mécanique, donc à suivre ce week-end, la troisième manche du championnat du monde de Formule 1 du côté du Japon sur le tracé de Suzuka. La première séance d'essais libres s'est courue en début d'après-midi. George Russell et Kimi Antonelli sur Mercedes ont une nouvelle fois été les plus rapides. La deuxième séance est actuellement en cours. À suivre demain la troisième et dernière séance d'essais libres, mais aussi la séance de qualification à partir de 17h. Le Grand Prix de Formule 1 sera à suivre dimanche à partir de 16h, heure de Nouméa.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1, parrainée par Shell et Pacifique. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2026. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
De la moto également avec ce week-end, la troisième manche du championnat du monde de MotoGP. Pilotes et écuries se retrouvent à Austin, au Texas, pour le Grand Prix des Amériques. La course sprint est prévue dimanche matin pour nous à partir de 7h. Le Grand Prix est à suivre lundi matin à la même heure. Et puis du cyclisme ce week-end dans la nuit de dimanche à lundi, la 88e édition, attention, de Gent-Wevelgem. Nous suivrons également ce week-end la fin du Tour de Catalogne.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, à l'île des Pins, c'est le 101.
Sur le territoire, à présent du football, avec un match en retard de la première journée de Super League ce week-end, l'AS Cougnier affrontera l'AS Magenta. Ce sera demain à 15h au stade Nouma Dele. De la boxe, également demain, le comité de Nouvelle-Calédonie lance sa toute première compétition de l'année. Rendez-vous dès 11h à la salle Vincent Cafoy de Rivière-Salée. Du tennis de table avec la coupe d'ouverture, ce sera dès 8h à la salle Sérandour au gymnase de Boulary. De l'haltérophilie aussi, avec demain, toujours dès 9h à l'Institut du Mont d'Or, la finale du championnat territorial. Demain et dimanche, la salle Wawanabu de Lansvata accueillera la coupe Arias Pacta de l'AS Magenta. C'est du badminton. 116 joueurs de 10 clubs différents sont attendus. Il est 18h23, après le sport, place à la météo.
Socapor Peinture vous présente la météo. Socapor Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Swati, Lunicalo, pour professionnels et particuliers, et des milliers de teintes disponibles. Socapor Peinture, c'est à Ducos.
Allez Pierre, c'est avec vous du coup la météo ce soir.
Exactement, vigilance jaune, forte pluie, orage sur la côte ouest de Boulou-Paris-Accoumac pour des averses localement orageuses jusqu'en début de soirée de vendredi. Cette nuit sur la côte ouest, le ciel se dégagera en soirée après la dissipation des nuages et des averses résiduelles de fin de journée. Ailleurs, nuages et averses prendront l'avantage. L'alizée d'est à est-sud-est soufflera de 10 à parfois 15 nœuds et la côte ouest restera souvent déventée, sauf dans l'axe de certaines vallées du nord. Les températures minimales quant à elles resteront élevées, comprises entre 23 et 26 degrés. Demain matin, le soleil restera voilé sur la côte ouest et sur les autres régions, le ciel sera le plus souvent nuageux avec des averses plus marquées sur le nord-est et la pointe nord. Sur la côte ouest, le vent restera faible et soumis au régime de brise côtière. Ailleurs, l'alizée de secteur est soufflera entre 10 et 15 nœuds, plutôt autour de 10 nœuds sur la côte est. Et côté mer, la marée se rabasse à 21h24, puis elle remontera demain matin à 4h33 avant de redescendre vers 11h. Les niveaux évolueront dans l'ordre de 57 cm, 1,37 m et puis 83 cm. Et côté ciel, la lune descendante offrira un clair de lune de 68%, une lumière encore généreuse comme une présence calme au-dessus du territoire, glissant entre les nuages pour adoucir la nuit.
Merci beaucoup Pierre pour cette météo, mais aussi pour la technique. C'est la fin de ce journal.